Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. C'est avec une grande joie que je reçois Dominique Chevalier. Je le connais depuis longtemps, il a été mon professeur au Centre d'objets d'art et de mobilier. Il est galériste, puisqu'il est spécialiste dans les tapis, tapisseries. Il est président de l'Association des antiquaires et galeries d'art du carré Rive Gauche. Depuis 2014, il est président du Syndicat national des antiquaires, SNA. Dominique Chevalier, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, une belle carrière, puisqu'elle a commencé par cette galerie qui avait été fondée par votre grand-père, je crois bien.
Oui, tout à fait. C'est une longue story, donc la résumer demanderait beaucoup de temps. Mais grosso modo, mon grand-père, homme très courageux, qui était premier vendeur à la maison Boussicot, c'était le bon marché,
oui.
Absolument, mais rayon tout de même tapis. Eh bien, à la guerre de 14, comme beaucoup d'hommes, il a perdu son bras droit. Il est revenu en France et il a créé de lui-même, à ce moment-là, très courageusement, sa galerie de tapis et tapisserie. Donc c'est lui qui a fondé cette galerie, qui a fondé aussi l'atelier de restauration de tapis-tapisserie, il ne faut pas l'oublier.
Oui, je me souviens de l'avoir visité.
Exactement.
Très bel endroit.
Très bel endroit, et où nous conservons du savoir-faire, et c'est très français aussi. Et ça a été repris par mon père, Georges, et puis ensuite par moi-même et mon frère jumeau. Et voilà, de fil en aiguille, si je peux me permettre, parce que c'est tout à fait, nous sommes dans ce textile. Nous avons ensuite créé la galerie que vous connaissez, qui est Voltaire.
Oui.
Mais cela, avec mon épouse, Nicole de Pazzi-Chevalier, qui m'accompagne depuis 1980. Dans cette belle aventure.
Oui, et ça, je dois dire que votre galerie est absolument superbe. C'est vraiment comme un musée, si je puis dire.
Alors oui, je ne voudrais pas que ça soit comme un musée, parce qu'un musée, on n'a pas le droit d'acheter des objets. Chez nous, il faut acheter des objets.
Oui.
Donc, c'est pas exact. C'est un musée. C'est-à-dire qu'on croit beaucoup à notre métier. On a fait beaucoup pour la connaissance,
oui.
Parce qu'on a écrit un livre, évidemment, sur la tapisserie. On adore le textile et on essaye de développer cet art, qui est un art majeur, mais qui n'est pas facile. Et en plus, on est superbement bien placé, juste en face du Louvre. Et puis, nous avons une chance énorme, c'est que, si vous voulez, cette entreprise qui date de mon grand-père va continuer, parce que j'ai mes deux filles qui travaillent maintenant à l'intérieur et qui remodernisent un petit peu, mais toujours dans le textile, car nous avons un fil conducteur qui est le textile.
Et donc, elles ont créé Pachua.
Alors, entre autres, effectivement, avec moi, on a créé Parsua, qui est cette entreprise où nous faisons nos propres tapis d'après nos propres cartons, mais nous les faisons exclusivement en Iran. Et nous les faisons non pas dans des ateliers, mais dans des villages. Nous allons chercher la laine dans les vallées de Shiraz, qui est la plus belle laine qui existe au monde. Elle est filée à la main, les teintures sont naturelles. On a dû réinventer tout ça, car ils avaient perdu tout ça. Et nous faisons nos propres décors, ce qui est tout de même une chose assez fantastique. Et on peut les faire à la dimension et aux couleurs. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est essentiel.
Et pour le décor, ce sont des artistes qui
Alors pour le décor, pour le design, soit nous nous inspirons de textiles anciens que nous remodifions, que nous revisitons, soit nous avons des artistes qui viennent nous accompagner, qui nous proposent des décors. Tout ça va dans le même but où, avec cette nouvelle génération qui arrive, on s'ouvre également sur la tapisserie moderne et contemporaine, ce qui est aussi une chose importante car nous avons le côté ancien, antique, mais
oui.
Il y en a de moins en moins qui existent. Et puis, il y a ce côté plus moderne d'objets que nous essayons de promouvoir, qu'elles essayent de promouvoir par des expositions à la galerie.
Et elles-mêmes travaillent à la galerie qu'est Voltaire?
Tout à fait, elles sont toutes les deux à la galerie, mais si vous voulez, notre métier est aussi un métier d'itinérant, c'est-à-dire que nous sommes obligés d'aller, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, hein.
Oui.
Et actuellement, les affaires ne sont pas simples et il faut donc y travailler et par Internet, on travaille pas mal par Internet et d'aller dans le monde entier pour aller visiter les clients.
Et votre épouse est elle-même...
Alors elle, c'est, je dirais, la personne qui a la mémoire de l'entreprise et la mémoire des objets. C'est-à-dire que c'est une grande spécialiste. J'ai l'habitude de dire, vous avez été mon élève, ça nous rappelle les bons temps, ça. Mais il y a tout de même un certain temps. Mais je dirais qu'elle a dépassé son maître, qui pouvait être moi. Elle connaît beaucoup mieux que moi. Et maintenant, je suis, moi, très fier de voir des conservateurs étrangers lui posant des questions sur des tapisseries pour avoir son avis. C'est donc la preuve qu'elle a effectivement, en 40 ans près de moi, acquis une notoriété qui est tout de même assez fantastique.
Ah oui. Et vos deux filles, alors, ont fait des études d'art également ?
Alors, il y en a une qui a plutôt fait, elle se complète parfaitement, il y en a plutôt une qui a fait des études plutôt, je dirais, d'économie, oui. Donc il faut gérer, la gestion est une chose importante. Par contre, ma deuxième fille, Amélie Margot, a un master en histoire de l'art, et elle s'intéressait évidemment, pas seulement au textile, mais également à la photographie, et à l'art africain, mais elle est venue au textile en allant faire un stage de 4 mois au Washington Textile Museum, donc elle s'est ouvert les yeux avant de rejoindre l'entreprise familiale.
Oui, et par exemple, si quelqu'un vient dans votre galerie en disant, voilà, je voudrais tel motif, est-ce que c'est possible ?
Alors, en tapis, oui. C'est-à-dire qu'en tapis, on peut effectivement les conseiller. En tapisserie, non. Mais par contre, nous avons des artistes contemporains et je pourrais dire que nous avons même une artiste qui est dans le Perche, pas très loin de chez vous, à côté de chez vous, qui s'appelle Françoise Parissant et qui, si vous voulez, on a fait une exposition thématique sur toutes ses œuvres de tapisserie et nous travaillons évidemment exclusivement avec elle et c'est un vrai bonheur parce qu'elle est de votre coin. C'est une vraie percheronne.
Ah, voilà. Dans le Perche a des ressources.
Mais voilà, exactement.
Alors, vous êtes bien sûr impliqué dans la galerie, mais vous êtes aussi très impliqué dans le monde associatif et je pense aussi d'abord au syndicat national des antiquaires. À partir de quelle époque est-ce que vous avez créé?
Oh là là, non, moi je n'ai rien créé, mais il est vrai que j'ai toujours voulu m'investir dans le monde associatif. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, moi j'ai l'habitude de dire je suis un fils à grand-papa et je suis né un petit peu avec une cuillère d'argent. J'ai eu beaucoup de chance parce que tout ça m'a été donné par un père et un grand-père. Et j'ai toujours eu envie de pouvoir faire partager et redonner aux autres ce que j'ai reçu. Donc très tôt, j'ai voulu m'impliquer dans le monde associatif et entre autres dans notre syndicat qui est le plus important, le Syndicat National des Antiquaires.
Créé en quelle année alors ?
C'est une des premières.
Oui.
Loi
c'est
associative,
ça, 1901, ouais.
Octobre 1901. Ouais. Rendez-vous compte que c'est une des premières lois associatives et qui a eu son heure de gloire à partir de 1956 et 1963 surtout, au moment de la création de la Biennale des Antiquaires, qui lui a donné un renom extraordinaire. Donc nous sommes 350 membres. Je me souviens quand je suis arrivé, j'ai déjà commencé à faire une petite révolution, car les membres du conseil, il y a 17 personnes dans le conseil, sont des gens qui étaient cooptés.
Ah oui.
Et moi, à chaque fois, je voulais me faire coopter. J'étais jeune, hein, il faut dire, et peut-être un petit peu roquet quelque part. Eh bien, je ne pouvais jamais me faire coopter. Donc, j'ai fait une petite révolution avec 3-4 antiquaires. Et à partir de ce moment-là, les élections se sont faites d'une façon démocratique. Et j'ai été élu au conseil. Alors, je ne vous dis pas depuis combien de temps, parce que c'est depuis la nuit des temps. Et puis, être élu au conseil, si vous n'avez pas de responsabilité, ça n'a pas non plus un intérêt fou. Donc, très rapidement, je suis rentré dans le conseil, j'ai fait tous les postes, j'ai été trésorier, secrétaire général, président, une fois président en 2001 où j'ai fait les 100 ans du syndicat Jacques Marandré, je m'en souviens très bien, à ce moment-là c'était tous les ans, et puis j'ai fait après, disons, une sorte de traversée du désert pour être réélu il y a maintenant 2 ans, en 2014, voilà.
Ouais. Un beau parcours, et en fait vous êtes très nombreux dans ce syndicat.
Alors nous sommes pas le plus important, mais je dirais en nombre, parce qu'il y a le SNACO, qui est un syndicat de brocanteurs, qui a à peu près, je crois, dans les 2000 membres. Nous avons 350 membres. Mais nous comptons parmi les plus grands antiquaires français et également étrangers.
Pas seulement de Paris, donc.
Alors, pas seulement de Paris. Il y a également de provinces.
Il faut peut-être
voilà, il y a également de provinces, il faut français, mais il y en a aussi
Bordeaux,
à l'étranger. Bordeaux, Lyon, bon, tout en sachant que malheureusement, dans notre vie actuelle et par rapport à la modernité, à la conjoncture, beaucoup de choses maintenant se centralisent vers Paris, vers la capitale de la France. Internet a fait beaucoup pour ça, parce que maintenant, si vous voulez, ce n'est même plus Paris, c'est mondial, je dirais.
Oui. Hein,
et si on ne s'adapte pas à cette évolution-là, on risque de mourir.
Oui. Et donc, d'ailleurs, c'est ce que vous préconisez, une mondialisation. mondialisation du marché de l'art.
Alors, mondialisation, ce n'est pas forcément, si vous voulez, une préconisation. Je dirais que c'est une adaptation nécessaire et indispensable. Et j'essaye, et dans notre conseil, nous essayons de bien dire à nos adhérents, attention, ne passez pas à côté de la révolution Internet. Il faut absolument être présent. On ne peut pas, vous savez, faire une exposition, c'est quelque chose qui coûte très cher. Et donc, on ne peut pas faire trop d'expositions. Par contre, Internet, on peut effectivement avoir un site bien fait et essayer de solliciter, de se faire connaître.
Donc, j'imagine que le milieu des antiquaires est un milieu qui n'aime pas trop bouger, finalement, puisqu'ils vivent justement avec des choses anciennes. Alors, est-ce que c'est difficile pour vous, qui aimez moderniser, de le faire vraiment, de changer les habitudes ?
Rien n'est simple. Changer les habitudes, changer les mentalités dans n'importe quel milieu socio-professionnel,
c'est difficile.
Je dirais que peut-être que dans notre métier, il y a en plus une omerta où on n'aime pas dire ce qu'on a vendu, quel prix on a vendu, etc. Je pense que ce temps est révolu. Et donc, il faut effectivement qu'on puisse s'adapter. Donc, j'espère qu'avec notre conseil, parce que je ne suis pas seul, hein, je suis entouré de 17 personnes, avec notre conseil, on va faire effectivement comprendre à nos adhérents qu'il s'agit au jour d'aujourd'hui de s'ouvrir au monde et qu'effectivement, l'informatique, Internet, c'est important. Je connais encore des antiquaires qui n'ont pas Internet, qui ne savent pas se servir, mais c'est vrai, qui ne savent pas se servir d'un ordinateur. Ça arrive encore et c'est tout de même très dommage.
Ah oui. Alors, j'aimerais pour nos auditeurs que vous évoquiez un petit peu la Convention Unidroit. On en parle beaucoup en ce moment. En quoi est-ce que cela consiste ?
Alors, la Convention Unidroit, c'est quelque chose d'assez particulier que la France n'a d'ailleurs pas encore ratifié. C'est une convention qui demande que les objets reviennent dans les lieux d'origine par mégarde, il n'y a pas une acceptation officielle. Alors, imaginez que des objets qui nous viennent de nos pères, nos grands-pères, bien souvent, il n'y a plus aucun papier, il n'y a rien. Donc, impossible de savoir. Et là, je dirais que c'est quelque chose d'assez polémique. Il est évident que certaines personnes, et entre autres à l'ICOM, et c'est la réunion de conservateurs internationaux, ils voudraient qu'il y ait ce retour des objets. Mais d'un autre côté, moi, j'en suis pas persuadé pour deux raisons. D'abord, une raison culturelle. Je pense qu'il est important que les objets puissent transiter d'un pays à un autre, parce que ça nous permet de découvrir d'autres civilisations. Mmh. Et je pense que justement, le fait de découvrir des civilisations permettra peut-être d'avoir un monde plus apaisé, ce que je souhaite. D'un autre côté, retour des objets dans des pays qui n'ont pas, je dirais, de politique de conservation, qui ont également, et nous l'avons vu dans certains pays malheureusement, où tout d'un coup on a dit toute figure humaine doit disparaître et qu'ils détruisent à l'explosif des objets. Ouais. Donc je pense que nous avons une responsabilité, le monde en tout cas peut-être, l'Europe entre autres, et les États-Unis, les Américains, pas l'Amérique du Sud, où il y a un gros problème aussi avec ces objets, où ils veulent le retour de ces objets, mais ils n'ont pas de moyens de conservation, oui, bien souvent. Oui. Donc, il faut réfléchir d'une façon, je dirais, moins restreinte et peut-être y réfléchir un petit peu plus. Donc, voilà le problème d'Unidroit. C'est un vrai problème qui est effectivement polémique. Et moi, je dois dire que pour le moment, je préfère que les objets restent bien conservés dans les musées, du moment qu'ils soient bien montrés à tout le monde.
Voilà. Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Dominique Chevalier et, chers auditeurs, j'espère que vous avez entendu ce grand collectionneur, ce grand, je dirais...
Amateur, antiquaire.
Voilà. Ouais, voilà. Et alors surtout, président des antiquaires et président de la Biennale des antiquaires. Et ça, c'est un point très important puisque cette Biennale va avoir lieu dans un tout proche moment, c'est-à-dire la semaine du... Alors, dites-moi tout.
Oui, alors je vais vous dire. Effectivement, ça sera, je donne les dates déjà oui, pour que vous les reteniez voilà. bien, c'est entre le 10 septembre et le 18 septembre. Il y aura un dîner de gala le 8 septembre et l'inauguration le 9 septembre. Mais ça sera ouvert au public à partir du 10 septembre. Alors, si vous voulez, cette biennale, c'est une chose importante des antiquaires, c'est une exposition. C'est important parce que dans notre rôle du Syndicat national des antiquaires, nous devons, notre rôle, c'est de défendre et de promouvoir notre métier. Oui. Donc la biennale est juste ce qui nous permet de promouvoir notre beau métier. Mais cette biennale a quelque chose qui va être tout à fait différent des autres biennales. C'est un renouveau total.
C'est grâce à vous, président.
Non, alors, oui, ouais, je suis gêné là. Non, Christiane, je suis très gêné. Disons que j'ai beaucoup pacté avec tout un groupe autour de moi parce que je suis
mais
tout
je sais
seul,
que
on ne peut rien
avez,
faire.
C'était difficile.
L'équipe, c'est important. Hein.
Oui.
Et effectivement, nous avons été élus pour faire une biennale annuelle. Vous me direz, c'est un bel oxymore, donc je ne sais pas comment nous allons après appeler cette biennale, mais donc cette biennale...
Alors que ça avait lieu tous les deux ans.
Tous les deux ans, absolument.
Donc ça, c'est vraiment bien pour remettre les antiquaires
et la ville de Paris, parce que nous avons un rôle important, c'est qu'en fait nous devons défendre un métier à travers un pays et à travers une ville, Paris et la France. Et donc, si vous voulez, le fait de faire ça tous les deux ans faisait une déperdition par rapport à d'autres expositions de grande qualité qui se faisaient à l'étranger.
Ouais.
Donc il nous fallait le faire tous les ans, que ça soit récurrent, que les gens puissent s'habituer. Mais et si vous voulez, et puis il fallait ouvrir notre biennale. Et donc, le renouveau de tout ce que nous avons fait, c'est très important. Il y avait, à la dernière biennale, il y avait 74 galeristes ou 75. Cette année, nous en avons à peu près 123.
Oui, presque le double.
Presque le double, 40% d'étrangers. Un peu moins de haute horlogerie et de haute joaillerie. Mais par contre, nous allons avoir trois expositions majeures.
Oui, alors ça, c'est très important parce qu'il y aura non seulement les antiquaires qui pourront vendre, bien sûr, ce qu'ils proposeront, mais il va y avoir des expositions. Alors, trois sortes d'expositions, c'est bien cela ?
Absolument.
Alors, ces trois expositions, il y aura d'abord un siècle d'élégance française. Alors, évoquez pour nous ce qu'on pourra y voir.
Alors écoutez, oui, d'abord, il faut savoir que si on fait ces expositions, c'est pour essayer de rendre encore plus attrayant notre biennale. C'est-à-dire qu'à la biennale, les gens peuvent venir pour acheter, mais également, ils peuvent venir pour apprendre, pour aiguiser leur curiosité. Et on a réussi un tour de force extraordinaire de faire sortir des objets de l'Ermitage qui ne sont jamais sortis de l'Ermitage, mais toujours avec une connotation importante avec notre métier. Vous avez dit le titre, un siècle d'élégance française, chef-d'œuvre du XVIIIe siècle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France et les objets d'art fabriqués en France ont toujours eu l'honneur de tous les pays, de toutes les grandes cours du monde de l'Europe. Mmh. Et donc, c'est pour nous important de montrer qu'il se fait en France des choses formidables. Vous verrez le lien d'ailleurs avec l'autre exposition que vous verrez après. Mais pour parler de cette exposition, si vous voulez, vous avez par exemple un vase militaire qui est en porcelaine de Sèvres de 1780, qui est à la fois martial et déroutant, vous le verrez, et qui a une forme Médicis et décoré de drapeaux et d'attributs militaires. C'est une pièce exceptionnelle de la manufacture de Sèvres. Il n'y en a aucun autre exemplaire et il n'est jamais sorti de l'Ermitage. Donc ça veut dire que uniquement déjà par cette pièce-là, oui. les gens voudront, les collectionneurs voudront absolument, si vous voulez, s'impliquer pour venir voir uniquement ça. Puis après, ben, ils verront les autres porcelaines oui. qui sont exposées.
Je sais qu'il y a un médaillé aussi absolument
somptueux. Ah, le médaillé des ateliers d'André Charles Boulle aussi, qui est étonnant, hein, qui a été vers 1723 et qui est aussi un meuble exceptionnel qui est représenté là, effectivement, et qui montre tout le savoir-faire de nos artisans de l'époque.
Oui. Alors, ça, c'est la première exposition.
Tout à fait. Alors, vous avez. Alors, quand on voulait faire deux expéditions, c'est des expéditions qu'on amène complètement. On a tout organisé. Et là, je dois remercier particulièrement Henri Loirette, qui est, contrairement à ce que vous m'avez dit, je ne suis pas président de la Biennale, c'est lui qui est le président de la Biennale. Moi, je suis président du syndicat et on a mis en place tout ça. Et c'est grâce à ces accords qu'il a pu avoir avec l'Ermitage, avec le musée de l'Ermitage, que ça a pu être fait. Et puis, un de nos membres qui s'est beaucoup impliqué, qui c'est M. Bernard Dragesco, qui s'est beaucoup impliqué pour aller voir là-bas les objets et les choisir.
Et parce que c'est un peu compliqué de faire sortir des objets comme
c'est
ça,
quasiment,
j'imagine.
Il a fallu un décret d'État pour que un tout soit clair.
D'état.
Je peux vous dire que c'est une. On pensait qu'on n'y arriverait pas. Ça a été extrêmement difficile. C'est pour ça que c'est très rare et que les gens, je pense, auront beaucoup d'intérêt à venir visiter cette exposition.
C'est ça. Même les gens qui n'ont pas forcément envie d'acheter.
Absolument.
Ils auront une grande joie à voir ces choses absolument.
Mais tout à l'heure, parce que si vous voulez, le rôle de l'antiquaire, c'est pas forcément de vendre. C'est aussi de créer, de susciter des envies et que celui qui n'achète pas aujourd'hui achètera peut-être demain. Nous avons un rôle de pédagogie et vous êtes bien placé. J'étais votre professeur.
Oui.
Je vous ai donné envie.
Bien sûr.
Et c'est ça notre rôle. Et vous m'avez pas acheté à ce moment-là. Puis vous m'achèterez peut-être un jour. Donc c'est aussi un rôle important. Donc là, ça rentre dans cette constitution. Et pour parler de la deuxième exposition, qui est donc par le Mobilier National. Mobilier National, c'est une grande institution. Hein, c'est un organisme d'État qui gère tout le patrimoine des objets, meubles qui se trouvent soit en France dans nos palais français, soit dans nos ambassades. Et il ne fallait pas les mettre en compétition avec évidemment le 18e français que nous avons, mais qui était amené par l'Ermitage. Donc, le titre, vous l'avez vu ?
Tradition et audace.
Voilà. Et ça veut dire qu'on représente justement, et moi pour moi c'est très important, des objets qui vont, disons, de 1940 à 1960. C'est important parce que ça montre le lien. L'antiquité n'est pas statique. Évidemment, quand on pense antiquité, on pense aux objets 16e, 17e, 18e. Mais ils sont de plus en plus rares. Donc, il faut aussi savoir que la modernité doit rentrer dans notre biennale et dans notre exposition. Les objets uniques.
Là,
évidemment.
Ce sera un point fort que vous aimez particulièrement.
Alors oui, je crois que c'est surtout quelque chose qui nous permettra de survivre et de pouvoir faire un lien avec les différentes époques. À partir du moment où un objet est un objet unique, c'est un objet d'art qui est exceptionnel. Et justement, les objets qui vont être montrés par le Mobilier National, qui sont donc d'une époque plus récente, sont des objets qui sont des objets uniques. Alors, vous avez, par exemple, une tapisserie de Devasme qui est, vous allez voir, qui
gigantesque,
est gigantesque.
Ah, oui.
Je pense de mémoire, je crois que sa dimension, elle doit faire dans les 10-12 mètres sur 4-5. Je sais qu'elle pèse 250 kilos.
Ah,
c'est
oui.
Énorme. Vous avez un bureau de Prince. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Ce sont des objets qui ont été créés pour être mis soit à l'Élysée, soit chez le Premier ministre, soit dans des ambassades. Donc, c'est vraiment des objets qui sont exceptionnels, qui sont conservés par le Mobilier National. Et je pense que c'est important d'associer dans une exposition française qui se fait à Paris, d'associer une fondation française avec un musée étranger.
Oui. Alors, peut-être verrons-nous des cadeaux qui ont été faits à la France dans cette exposition.
Alors, non, je ne pense pas que nous verrons des cadeaux faits à la France, parce que les cadeaux qui sont faits à la France, en général, sont dans des musées qui sont faits par nos présidents. Vous savez, vous avez le musée Mitterrand, vous avez le musée Chirac, et donc ces objets, en règle générale, ne vont pas au Mobilier National. Hein. Ils sont faits dans des musées particuliers. Mais vous verrez, par contre, des objets qui... Vous ne verrez pas, mais il y a des objets qui ont été faits par le Mobilier National. Par exemple, pour la reine de Suède, il y a toute une tenture de tapisserie qui a été tissée pour elle à la demande. Et qui a été plus ou moins un cadeau de la France à la Suède.
Ah oui. Alors la troisième exposition, c'est Conquête du temps. Alors Conquête du temps, j'imagine que ça va être l'horlogerie.
Ah bravo, c'est la conquête du temps. C'est organisé par la fondation de la Haute Horlogerie.
Oui.
Alors pourquoi ? Il se trouve que nous aurons moins de haute joaillerie. Hein, nous en aurons environ 4 ou 5 du monde. J'appelle ça la haute joaillerie du monde parce que nous allons avoir un Indien, nous allons avoir un Coréen, un Suisse, un Anglais. Nous n'aurons pas, et nous le regrettons, mais c'est comme ça, nous n'aurons pas la place Vendôme qui généralement avait une place très importante. peut-être trop importante, ce qui fait que nous avons diminué évidemment la place de la haute horlogerie pour pouvoir la donner aux galeries, ce qui en fait l'ADN de notre exposition, ce sont les antiquaires dans un premier temps, et non pas la création qui est fort belle et extraordinaire, la création de la haute joaillerie, je dis bien joaillerie. Donc pour combler ça, on a demandé à la fondation de la haute horlogerie de nous apporter des pièces anciennes qui ne sont pas à vendre, c'est une exposition, mais qui montre aussi la différence des montres, des objets, du cadran solaire à travers le temps. Et le temps est important pour nous parce que l'Antiquité, c'est le temps qu'il fait compter. Donc, oui. Si vous voulez, il y a tout de même un lien qui est un lien intéressant entre ce qu'ils vont apporter, des objets de musée qui ne sont pas à vendre, et puis en plus, ce qui sera intéressant, c'est qu'ils vont amener avec eux des artisans qui vont montrer le travail, qui est un travail très minutieux, qu'ils font. Donc, il y aura tout un côté pédagogie qui sera aussi très intéressant à voir.
Vous avez vu quelques objets qui seront exposés ?
Alors, je dois dire que j'en ai vu, je les ai un peu oubliés, vous ne m'en voudrez pas, je ne peux pas tout connaître et tout voir, mais j'en ai vu, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit depuis le XVIIe siècle jusqu'au Montaquartz. C'est-à-dire qu'en fait, oui. Si vous voulez, il y a vraiment le temps qui est défilé à travers cette exposition.
C'est-à-dire qu'il y aura aussi donc, des montres
plus
contemporaines.
Récentes, bien évidemment, contemporaines, je crois absolument tout à fait complètement.
Je crois que ce que vous aimez dans cette biennale, c'est qu'il y ait un côté moderne que vous aimez beaucoup.
Alors, je dirais que oui, on vit avec son siècle. Oui. Je pense quand mes filles ont commencé à vouloir faire des tapisseries modernes et contemporaines, j'étais un petit peu hésitant. Mais pas trop longtemps, parce qu'en fait, je considère que effectivement, il faut vivre avec son temps, il faut préserver l'ancien, le conserver, continuer à le découvrir, mais également aller vers une certaine modernité. Et je pense que cette nouvelle biennale, ce nouvel événement va nous le montrer.
Alors, ce que je trouve encore plus merveilleux, c'est que parallèlement à cela, au Petit Palais, il y aura un colloque.
Ah bah écoutez, et vous faites bien de me le dire parce que j'avais oublié une chose qui était très importante, c'est que nous intégrons dans notre biennale Paris Tableau qui se faisait au mois de novembre, oui. Et son président Maurizio Canesso a accepté de pouvoir se réunir à la biennale, donc nous aurons plus de 20 galeries c'est des galeristes de tableaux anciens du monde entier qui seront présents et qui pourront faire le colloque qu'ils faisaient normalement à la Bourse au mois de novembre, ils vont le faire au Petit Palais, donc juste en face, pendant la biennale. Et c'est un élément effectivement important, j'avais oublié d'en parler, mais merci de pouvoir me donner l'occasion d'en parler.
Donc je rappelle que du 10 au 18 septembre, au Grand Palais, eh bien, nous aurons un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d'art, une exposition absolument remarquable, un dîner de gala, et aussi, j'aimerais peut-être que vous nous rappeliez les heures, je crois que le vernissage sera le 9 septembre et du 10 au 18, on pourra assister de 11h, je crois, jusqu'à 20h, c'est bien cela, tout cela. Et il y aura même le jeudi 15 septembre une nocturne jusqu'à 23h.
Christiane, vous êtes parfaite parce que je ne sais pas si j'aurais pu le dire aussi bien que vous. En tout cas, je peux dire à vos éditeurs qu'ils sont les bienvenus et nous les attendons.
Eh bien, un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Un grand merci, Dominique Chevalier.
Merci, Christiane Nebla.